de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à tous, voici le journal d'aujourd'hui, vendredi, le 22 mai 2020. On commence par le titre, le cas de corona en Asie, on atteint 860 000 personnes. L'Indonésie et les États-Unis travaillent ensemble pour se procurer des ventilateurs. À cause du coronavirus, plusieurs Français toujours bloqués à l'étranger. L'Indonésie soutient pleinement la résolution de l'Organisation des Nations Unies de lutter contre COVID-19. 1970 équipages de navires des citoyens indonésiens d'Allemagne ont été répatriés avec succès en Indonésie. Le vice-président espère que l'Indonésie et Singapour encouragent la stabilité économique mondiale. L'Indonésie a besoin d'une campagne structurée pour lutter contre la discrimination des palmiers, a déclaré l'ambassadeur Arif Abbas Ogroseno. Bon, chers auditeurs, voici le journal en complet. Le cas de COVID-19 en Asie. On atteint plus de 860 000 avec 25 851 décès. Selon le rapport de Worldometre jeudi, le 21 mai 2020, la Turquie occupe toujours la première position avec le plus grand nombre de cas de COVID-19, à savoir plus de 152 000 cas, et suivi par l'Iran avec près de 127 000 cas, et l'Inde avec plus de 112 000 cas. Le gouvernement indonésien a établi une communication intensive avec le gouvernement des États-Unis concernant l'achat de ventilateurs qui est nécessaire par les patients de la COVID-19. La coopération dans la fourniture des dispositifs médicaux a été initialement discutée au niveau du chef de l'État lorsque le président indonésien Joko Widodo s'est entretenu par le téléphone avec le président américain Donald Trump en avril dernier. La ministre des Affaires étrangères Retno Marsudi, lors d'une conférence de presse en ligne du palais présidentiel de Jakarta, a déclaré mercredi que la coopération a été suivie par une réunion entre l'Agence des États-Unis pour le développement international et le ministre indonésien de la Santé concernant les spécifications et les aspects techniques des ventilateurs dont l'Indonésie a besoin. Selon Retno, son bureau a reçu des informations sur les expéditions qui pourraient être effectuées à la fin de mai ou au début de juin. En plus de coopérer avec d'autres pays, y compris les États-Unis, l'Indonésie développe également ses propres produits de ventilation. 686 500 personnes ont déjà pu rentrer en France, plusieurs centaines, voire quelques milliers, attendent toujours d'être rapatriées. Dès mars dernier, alors que la crise mondiale du coronavirus n'en était encore qu'à ses balbutiements, le rapatriement des dizaines de milliers de Français qui se trouvaient à l'étranger était un sujet épineux. Alors que de nombreux pays fermaient tour à tour leurs frontières, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, avait estimé que 130 000 d'entre eux étaient dans l'attente d'un retour sur le sol français et que le pays se tenait à leur disposition. Selon le rapport de BFM TV qu'aujourd'hui, quasiment deux semaines après la fin du confinement, il y a environ 186 500 Français avaient pu rentrer en France depuis la mi-mars avec l'aide de la cellule de crise de CAI d'Orsay, des ambassades et des compagnies aériennes associées. L'un des derniers rapatriements en date, le 11 mai passé, concernait 150 Européens, dont 59 Français, bloqués au Panama et au Honduras. La session de l'Assemblée mondiale de la santé, qui s'est tenue virtuellement du 18 au 19 mai à Genève, en Suisse, a abouti à l'adoption d'une résolution de lutte contre le COVID-19. 135 pays, y compris l'Indonésie, sont co-sponsors de la résolution visant à unir le monde dans la lutte contre l'épidémie du coronavirus. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a déclaré dans une conférence de presse virtuelle avec des médias étrangers au palais présidentiel de Jakarta mercredi que l'Indonésie considérait la résolution était importante non seulement comme une démonstration de l'engagement mondial pour renforcer l'unité contre COVID-19, mais aussi pour se préparer s'il y aura une pandémie à l'avenir. Madame Retno a déclaré qu'il y avait six choses qui soutiennent l'Indonésie, soutient pleinement la résolution dans la lutte contre la COVID-19, y compris le renforcement de la participation des femmes au processus décisionnel de réponse et de rétablissement de COVID-19. Des informations de l'ambassade d'Indonésie à Berlin, reçues jeudi à Jakarta, indiquent qu'un total de 1970 citoyens indonésiens travaillant comme équipage de navire ont été rapatriés d'Allemagne en Indonésie. Au total, 242 citoyens indonésiens d'un équipage de croisière allemand ont été rapatriés mercredi dernier et sont arrivés à Bali jeudi dernier. Le rapatriement du dernier groupe de citoyens indonésiens de l'équipage de ce navire a été assisté directement par l'ambassadeur d'Indonésie en Allemagne, Arif Hawas Ogroseno. L'ambassadeur Hawas a déclaré que tous les citoyens indonésiens avaient été testés et qu'ils étaient négatifs pour COVID-19 à partir de deux tests de PCR. Les équipages des citoyens indonésiens du dernier groupe ont été rapatriés par l'avion affrété au départ de l'aéroport de Hambourg à 18h heure locale. Le vice-président indonésien Ma'ruf Amin espère que la coopération bilatérale entre l'Indonésie et Singapour pour encourager la stabilité économique à la fois régionale et mondiale, en particulier au milieu de la pandémie COVID-19 qui menace la croissance économique mondiale. L'espoir a été remis directement par le vice-président Ma'ruf Amin au vice-premier ministre de Singapour Heng Swee Keat par téléphone depuis la résidence officielle du vice-président à Jakarta jeudi dernier. Le vice-président Ma'ruf a déclaré dans un communiqué reçu jeudi à Jakarta que la pandémie de COVID-19, qui a frappé plus de 200 pays dans le monde, a incité de nombreux gouvernements à mettre en œuvre des politiques qui ont eu un impact sur le ralentissement de la croissance économique. Le vice-président Maruf a également compris qu'en tant que vice-premier ministre et ministre des Finances de Singapour, Heng Swee Keat continuait également de surveiller le développement économique de son pays. Il a déclaré que le gouvernement indonésien travaillait également dur pour s'assurer que l'économie nationale continue de fonctionner au milieu de la pandémie. L'ambassadeur d'Indonésie en République fédérale d'Allemagne, Arif Hawass Ogroseno, a estimé que l'Indonésie doit mener une campagne structurée et continue pour lutter contre la campagne négative et la discrimination menée par l'Union européenne contre les produits de l'huile de palme. L'ambassadeur Arif Hawass, lors d'un web séminaire organisé à Jakarta mercredi dernier, a déclaré que l'Indonésie et d'autres pays producteurs d'huile de palme, comme la Malaisie, étaient confrontés à une campagne négative très massive de l'Union européenne, allant des écoles, des épiceries, des restaurants et des hôtels liés au danger de l'utilisation produits de palme. L'Union européenne mène une campagne négative contre l'huile de palme sur un certain nombre de questions allant de la déforestation, la perte de biodiversité, les violations des droits de l'homme, la santé comme le cancer dû à la consommation d'huile de palme. L'Indonésie et d'autres producteurs d'huile de palme peuvent faire la campagne structurée, l'un d'entre eux est la campagne d'investissement. Il existe plusieurs sociétés indonésiennes et malaisiennes qui investissent en Europe pour les produits de palme transformés, à savoir les oléochimiques. Le gouvernement indonésien peut collaborer pour mener une campagne de soutien aux palmiers à huile. C'était le journal d'aujourd'hui.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le commentaire et pour le titre COVID-19 contre les théories du complot. Le début de mai 2020 est en fait la phase initiale de récupération de COVID-19 pour plusieurs pays européens. L'Italie, l'Allemagne et même l'Espagne ont commencé à ouvrir progressivement le confinement. Il semble que la tempête corona ait commencé à être considérée comme apaisée dans ces pays. Mais ce n'est pas le cas en Amérique. Les données de l'hôpital Johns Hopkins indiquent que le nombre de morts de COVID-19 est encore assez élevé, plus de 60 000 personnes au début de mai, et il semble qu'elle continuera de croître. Vu le nombre de victimes difficiles à contrôler, le président Donald Trump est inquiet depuis longtemps. Surtout parce que la Chine a publié le bilan des morts lors de la dernière pandémie à Wuhan, seulement environ 3 000 personnes. Beaucoup plus petite que les victimes de COVID-19 en Amérique. Lors d'une conférence de presse à la mi-avril, Trump a déclaré que l'Amérique menerait une étude approfondie de la propagation du virus COVID-19 et des résultats horribles qu'il a causés. Plus tard, Trump a même prétendu avoir la preuve de l'origine du virus COVID-19. Plusieurs théories ont émergé. Les médias américains ont rapporté que le virus avait fui de l'Institut de virologie de Wuhan vers un marché aux animaux à proximité. On dit que le virus n'a pas été produit pour des armes de masse, mais pour montrer que la Chine est bien meilleure et avancée dans la gestion du virus. Mais jusqu'à présent, Trump n'a pas été en mesure de fournir des preuves solides de sa revendication. Une autre théorie a émergé et a déclaré qu'en réalité, l'Amérique produit depuis longtemps ce virus. Depuis 2015, Gates a rappelé au monde qu'il y aurait une épidémie et que Microsoft prépare actuellement un nouveau sérum antivirus Corona. Quoi qu'il en soit, jusqu'à présent, tout n'est qu'une théorie de complot et n'a pas été prouvé. Seul le temps donnera la réponse. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Chers auditeurs et auditrices du monde entier, voici les phénomènes de la semaine de l'édition 22 mai. On va commencer le 22 mai 1960. Le tremblement de terre a secoué Valdivia au Chili et a provoqué un tsunami qui atteint plus de 10 mètres de l'épicentre. Le tremblement de terre de Valdivia, le 22 mai 1960, était le plus puissant de tous les temps, atteignant une échelle de magnitude 9,5. Ce tremblement de terre s'est produit pendant la journée et a provoqué un tsunami qui a atteint le sud du Chili, Hawaï, le Japon, les Philippines, l'est de la Nouvelle-Zélande, le sud-est de l'Australie et les îles Aleut en Alaska. L'épicentre du séisme est situé près de Canet, à environ 900 km au sud de Santiago. On va changer. Le prochain événement historique a été l'embargo américain sur l'Iran. La première sanction américaine contre l'Iran le 22 mai 1980, à savoir le début d'un embargo économique lancé par les États-Unis contre la République islamique d'Iran. La victoire de la révolution islamique qui a renversé le gouvernement de Shah Pahlavi, soutenu par les États-Unis, a rendu l'Amérique incapable de maintenir son impérialisme en Iran. Par conséquent, les États-Unis ont lancé cet embargo tout en incitant l'Irak à envahir l'Iran. L'imam Khomeini espère que le peuple iranien à ne jamais avoir peur de cet embargo. Selon lui, les personnes qui ont peur de l'embargo ne sont que des personnes qui font de l'économie du monde comme le but de leur vie. En termes, l'unification du Yémen a eu lieu le 22 mai 1990. Le 22 mai 1990, la République du Yémen a été déclarée l'unification de la République arabe yéménite et de la République populaire démocratique du Yémen. L'ancien président de la République arabe du Yémen, Ali Abdullah Saleh, est devenu président de ce nouveau pays, tandis que l'ancien président de la République démocratique yéménite, Ali Salim al-Bitt, a été nommé vice-président. Au 19e siècle, le nord du Yémen était dirigé par l'Empire ottoman, tandis que le sud du Yémen était dirigé par la Grande-Bretagne. Après l'indépendance de l'occupation, chaque région a créé un État séparé. Le Yémen du Nord est devenu la République arabe yéménite, tandis que le sud du Yémen, contrôlé par les marxistes, a créé l'État de la République démocratique populaire du Yémen. Depuis 1960, le gouvernement des deux pays ont commencé à discuter de la possibilité de réunir l'État yéménite, mais cela s'est réalisé 18 ans plus tard. C'est ce dit tout de suite, c'était l'événement aujourd'hui.
Jangan pernah ragu, dengan menyebut nama Allah, bulatkan tekadmu, menempuh nasib. Serahkanlah hidup dan matimu.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Chers auditeurs, bonsoir. C'est le temps maintenant pour nous de vous présenter Mon Indonésie. Et pour le titre, le gouvernement alloue 641 millions rupiah pour restaurer l'économie. Le gouvernement a budgété 641,17 billion rupiah pour la reprise économique nationale au milieu de la pandémie de COVID-19. Le programme est conçu pour encourager la demande et l'approvisionnement. La ministre indonésienne des Finances, Sri Mulyani, lors d'une conférence de presse en ligne à Jakarta lundi, a déclaré qu'en termes de consommation, les mesures prises par le gouvernement étaient de fournir des subventions ou une assistance sociale, en particulier aux pauvres et aux personnes vulnérables de manière plus générale. Le soutien est fourni par le biais du programme de Famille Espoir, des colis alimentaires, des cartes de travail, des remises sur les tarifs d'électricité, l'aide sociale de Jakarta, de Bogor, d'Epok, Tangerang et Bekasi ou Jabodetabek, une aide en espèces non Jabodetabek et une assistance sous forme de nourriture ou de besoins de base. Sri Mulyani a également déclaré que le gouvernement avait prolongé la période de distribution des subventions et de l'aide sociale pendant les 3 mois supplémentaires pour les subventions à l'électricité et une prolongation jusqu'à la fin de l'année pour l'aide en espèces et l'assistance sociale dans les zones non Jabodetabek et Jabodetabek. Sri Mulyani a reconnu que ce soutien ne remplacerait pas nécessairement un ralentissement significatif de la croissance de la consommation des ménages au premier trimestre 2020. Cependant, il pourrait au moins empêcher une baisse de la consommation de manière à ce qu'elle puisse être maintenue à des niveaux qui pourraient répondre aux besoins, en particulier les besoins de base. Sri Mulyani a ajouté, le gouvernement également conçoit encore la revitalisation de la consommation si les restrictions sociales sont assouplies plus tard. Ceci est en ligne avec le développement de la transmission de COVID-19 qui commence à pouvoir être contrôlée. Il a affirmé que si ces conditions étaient remplies, le gouvernement fournirait un stimulus sous forme de consommation qui est destiné principalement au secteur lié au tourisme. Sa partie commencera à concevoir avec les ministères concernés. Du côté de l'approvisionnement, le gouvernement fournit un soutien afin que le montant des affaires puisse survivre à la pression de la pandémie de COVID-19 et puisse rebondir. Sri Mulyani a d'abord mis l'accent sur les micro, petites et moyennes entreprises. Il bénéficie de bonifications d'intérêt, d'ajournements de remboursement du principal jusqu'aux incitations fiscales de revenus sous forme de responsabilité gouvernementale. Il a souligné qu'en principe, les interventions du montant d'affaires est destinées à leur permettre de survivre, même il maintient toujours qu'ils peuvent bénéficier d'incitations lorsque l'économie rétablit progressivement pour pouvoir à nouveau exercer des activités économiques. Serge Ritter, c'était Mon Indonésie pour ce soir.
Ku diharapkan pilihan antara benar dan salah. Aku mencintai kamu, sangat mencintai. Kamu berjalan bersamanya selama kamu denganku. Begitu rumitnya dunia hanya karena sebuah rasa cinta. Jadilah aku kamu dan dirinya berada di dalam dusta yang tercinta. Mengapakah harus ku rasa sepenting itu?
Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français. C'était la deuxième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter les magazines culturels. Bonne écoute!
Bonsoir à tous, nous continuons notre émission avec le magazine culturel visitant la place Peuyeon qui se trouve à Gunung Kidul, Java Central. Gunung Kidul, situé dans la province spéciale de Yogyakarta, possède un potentiel touristique incroyable. La place Peuyeon est une nouvelle destination et son accès de la route était ouverte en 2017. La place Peuyeon, qui est située au village Kanigoro dans le district Saptosari, en résidence Gunung Kidul, offre une atmosphère calme et paisible. Cette place exotique est flanquée des montagnes typiques de Gunung Kidul, cachant ainsi la place Peuyeon de la foule. Dans la partie ouest, vous verrez une route naturelle sur la falaise qui convient au camping. La sensation de camper au bord de la place Peuyeon peut certainement être une expérience de vacances inoubliable. La vue sur la place est également belle avec la présence de pandanus autour de la place. L'emplacement de la place sur la colline offrira une vue magnifique et apaisante. La place Peiyuyon est située à environ 60 km de la ville de Yogyakarta. Pour atteindre la place, on a besoin de 2 heures. Depuis le parking, continue à marcher environ 500 mètres pour arriver à la place Peiyuyon. Le long du sentier, vous serez gâté par une atmosphère naturelle paisible associée au chant des oiseaux. Pour accéder au rivage, il faut encore emprunter un simple escalier en bois qui descend d'une falaise d'environ 4 mètres de haut. Le billet pour entrer sur la place Peiyuyon est 5000 rupiahs seulement. Sur la place Peiyuyon, il y a une étendue de sable blanc associée aux vagues océaniques bleues et luxuriantes aux feuilles de pandanus donnant la place d'une apparence plus naturelle. Pour ceux qui aiment la pêche, cette place est également un lieu de la prédilection pour la pêche. Se rendre à la place Peiyuyon n'est pas difficile, en particulier pour ceux qui conduisent une moto ou une voiture privée. Mais pour ceux d'entre vous qui utilisent le transport public, tel que l'autobus, vous pouvez également vous rendre facilement à la place Peiyuyon, parce que vous pouvez vous arrêter au terminal d'autobus de la ville Gulungkidul. Vous continuerez ensuite en moto louée jusqu'au village Kanigoro pour rejoindre la place Peiyuyon. Avant de partir pour la place Peiyuyon, vous devez d'abord surveiller le temps qu'il fait pour ne pas nuire à vos vacances. En outre, vous devez également préparer des nourritures, un boisson, des vêtements et des médicaments. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir, la voix de l'Indonésie pour le monde. L'Indonésie pour le monde. Au revoir.
Kamu yang belum juga kembali, ada satu keyakinan yang membuatku bertahan. Penantian ini kan terbayar pasti. Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam. Aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Jika bukan kepadamu, aku tidak tahu lagi pada siapa rindu ini kan ku beri.
Kepada siapa rindu ini kan ku beri. Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang hatiku kau genggam. Aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Lihat aku sayang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang hatiku kau genggam. Aku takkan pergi.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Serge Littard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Bonsoir, chers auditeurs de la Voix d'Indonésie. C'est un plaisir de vous rencontrer dans le programme L'Indonésie en couleur. Dans cette édition, nous vous informons sur la journée de l'Istiqlal. Alors, souhaitez être avec nous sur www.voice.id. Le 22 février, il y a 41 ans, la mosquée Istiqlal a été inaugurée pour devenir l'une des plus grandes mosquées du monde. Fondée dans le cadre du projet de construction du phare de Sukarno avec la pose de la première pierre, le 24 août 1961, la mosquée au cœur de Jakarta a été inaugurée par le président Suharto le 22 février 1978. Depuis ce moment, le 22 février est célébré comme la journée d'Istiqlal. Istiqlal est toujours considérée comme la plus grande mosquée d'Asie du Sud-Est. Cette mosquée s'étend sur une superficie de 9,32 hectares. Sa capacité peut également accueillir jusqu'à 100 000 fidèles pour y effectuer des services de prière. Non seulement magnifique, selon le chef de la section du protocole et des services touristiques de la mosquée Istiqlal, Abu Huraira, la mosquée Istiqlal incarne également divers symboles.
Masjid ini selain sebagai simbol kemerdekaan karena dibangun.
Cette mosquée est un symbole de l'indépendance car elle a été construite sous la forme d'une manifestation de la gratitude du peuple indonésien pour la grâce de l'indépendance. Elle porte dans le nom d'Istiqlal qui signifie indépendance en arabe. De plus, Cette mosquée devrait être un symbole de tolérance religieuse. C'est pourquoi elle a été construite à quelques mètres de la cathédrale. Et ce qui est unique, cette mosquée a été conçue par un prêtre, Monsieur Frédéric Silaban. Située au cœur de la capitale, une mosquée construite sur l'entraide de la part des Indonésiens de confession religieuse et ethnique est non seulement un lieu de culte musulman, mais également l'une des attractions touristiques de Jakarta. Abu Huraira a expliqué que depuis 3 ans, cette mosquée est devenue une destination touristique incontournable à Jakarta. Les touristes étrangers et les invités de l'État sont programmés pour y venir. Aujourd'hui, le nombre de touristes étrangers non musulmans se rendant à la mosquée Istiqlal augmente chaque jour. Les touristes les plus visités viennent de Corée et du Japon.
Sekarang khusus di hari di akhir pekan, Jumat Sabtu Minggu, kami bisa menerima tamu.
Désormais, plus précisément les weekends, vendredi, samedi, dimanche, nous pouvons recevoir des invités de 300 à 400 personnes. Le montant est uniquement constitué de touristes étrangers non musulmans. En semaine, du lundi au vendredi, environ 200 personnes. Ce nombre augmentera s'il y a des vacances en Europe ou en Asie du Sud-Est. En plus de prières en congrégation, la mosquée Istiqlal propose chaque jour diverses activités. Le deuxième et quatrième dimanche, il y a une étude de Darut Tauhid et de Darul Coran. À 41 ans de la mosquée Istiqlal, il espère que la mosquée, fière de la nation indonésienne, pourra devenir le centre des activités de tout groupe ou congrégation musulmane. Il espère également que davantage de personnes de différentes religions visiteront la mosquée Istiqlal. Chers auditeurs, c'était l'Indonésien Club pour ce soir. Merci de votre attention. À demain.
Kau dan Voice of Indonesia.
Ku petik gitar untuk melupakan cerita lama, tak juga silam. Ku tahu cinta tak harus menguasai. Ku tahu cinta tak harus memiliki. Tapi terlalu pahit untuk dikenang. Kisah itu selalu tetap terbayang. Terlalu pahit untuk dikenang. Trauma yang dulu tak mau menghilang. Kau kini bukan milikku lagi. Tapi rasa ini tak juga pergi. Ku tahu cinta tak harus menguasai. Ku tahu cinta tak harus memiliki. Tapi terlalu pahit untuk dikenang. Kisah itu selalu tetap terbayang. Terlalu pahit untuk dikenang. Trauma yang dulu tak mau menghilang.
Chers amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute.
Cerita bonsoir, voici donc le magazine musical. Pour ce soir, nous vous informons sur une chanson provenant de Java Central, Gambang Suling.
Gambang Suling.
Gambang suling kumandang suarane.
Gambang suling est un chanson originaire de la région de Java Central créée par Kinarto Sabdo. Les paroles ne contiennent que 5 phrases. En plus d'être simple, cette chanson est également connue comme une chanson pour enfants. Certains pensent que cette chanson est créée comme une expression de tristesse. Cependant, la chanson Gambang Suling parle d'un instrument de flûte au son très agréable à écouter. Suling est l'un des instruments avant-indonésiens traditionnels. Outre Java Central, certaines régions d'Indonésie possèdent également des flûtes comme instruments de musique traditionnels tels que Java de l'Ouest et Sumatra de l'Ouest. En général, les flûtes sont en bambou. Bon, serviteur, voici la chanson de Sujiwo Tejo dont le titre est Gambang Suling. Bonne écoute.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voindonesia, d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube Voice Indonesia et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.